À midi, nous retrouvons Olivia Gesbert.
Merci beaucoup Anne. Et de Japon et d'économie, il sera question dans la grande table ce midi. Mais tout de suite, on commence par faire un point sur l'information. Car il est midi pile. Et vous écoutez France Culture, bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant. Les titres avec vous Antoine Mercier.
Bonjour. Bonjour Olivia, bonjour à tous. Le Figaro révèle ce matin le plan Cazeneuve pour tenter de répartir les migrants qui se trouvent actuellement à Calais sur tout le territoire. C'est un plan qui prévoit de créer 12 000 places d'hébergement réparties dans 12 régions. Explication avec Cécile de Carbazdoué tout à l'heure. L'armée syrienne affirme avoir abattu un avion et un drone militaire israélien. Selon un porte-parole de l'armée israélienne, il y a bien deux missiles solaires qui ont été tirés de Syrie, mais la sécurité des appareils n'a à aucun moment été compromise. Correspondance avec Étienne Monin. À part cela, la trêve est globalement respectée en Syrie. L'arrêt des combats devrait permettre l'envoi d'aide humanitaire dans les prochains jours aux centaines de milliers de personnes qui vivent dans les zones assiégées et notamment la partie rebelle d'Alep. Le ton est encore monté ce matin entre le gouvernement et la direction d'Alstom. François Hollande répète que tout va être fait pour que le site de Belfort soit pérennisé pour plusieurs années, mais le PDG du groupe déclare à l'inverse aux salariés qu'il est impossible de maintenir la production de trains à Belfort, suivi du dossier avec Hakim Kasmi. On dira aussi un mot de François Hollande encore, puisqu'il déclare soutenir entièrement l'initiative du président de la Commission, Jean-Claude Juncker, qui a décidé, on le sait, de soumettre à un comité d'éthique la question de l'embauche de son prédécesseur, José Manuel Barroso, par la banque américaine Goldman Sachs. L'invité de la séquence interview, c'est ça, Didier Lesky, qui est directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Voilà pour les titres, c'est à vous. Olivia Gesbert, la grande table.
Jusqu'à midi et demi pour la première partie. Merci. À tout de suite, Antoine. Bonjour à tous. Comme un mardi, on se fait un film à la Cinémathèque en attendant le changement d'affiche demain dans les salles et l'arrivée sur les écrans de Victoria de la Française Justine Triet et de Clash de l'Égyptien Mohamed Diab. En première partie, trois passionnés de cinéma japonais avec lesquels nous évoquons ce midi l'exposition L'écran japonais et revenons sur 60 ans de découverte Konnichiwa. Dans la deuxième partie de l'émission, à partir de 12h55, le nom à l'euro de l'économiste américain Joseph Stiglitz, trois scénarios pour une sortie de crise, le prix Nobel d'économie nous expliquera comment, selon lui, la monnaie unique menace l'avenir de l'Europe. Titre de son essai qui paraît ces jours-ci au lien qui libère, prévisible. La grande table se tweet, se like et se télécharge. À vous de jouer désormais et bienvenue à vous.
La grande table. Olivia Gesbert.
Peinture, affiches, photos, la Cinémathèque ouvre en cette rentrée son fonds, pioche dans ses collections pour faire revivre 60 ans d'histoire du cinéma japonais. En parallèle de Méliès à la 3D, la machine cinéma qui s'exposera à partir du 5 octobre à la Cinémathèque, la plus discrète mais non moins prestigieuse galerie des donateurs du musée du cinéma montre les plus belles pièces japonaises de sa collection, projettera également des films, on vous donnera tout le programme dans quelques instants. Coïncidence, quoique, un dictionnaire coffret, l'âge d'or du cinéma japonais paraîtra dans quelques jours chez Carlotta Film et GM Éditions sous la direction de Pascal Alex Vincent, notre premier invité. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cinéaste, enseignant à l'Université Paris 3, Sorbonne Nouvelle, programmateur de la sélection de films projetés autour de l'écran japonais. Pendant 12 ans, vous avez œuvré, ça fait beaucoup, à la réédition de grands classiques japonais en salle. À vos côtés, Futoshi Koga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de cinéma à Tokyo, journaliste spécialiste dans les arts et la culture au quotidien Asahi Shimbun. Vous avez contribué au dictionnaire L'âge d'or du cinéma avec Pascal Alex Vincent. Et à vos côtés, enfin, Émilie Coqui, bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes co-commissaire de cette exposition, L'écran japonais, à la Cinémathèque française, qui débutera demain, mais durera jusqu'à juin prochain. Donc on a le temps d'aller la voir, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'y précipiter. Et vous êtes responsable de la diffusion et de la valorisation des collections films de la Cinémathèque française, qui est à Paris, à Bercy, hein, désormais, je vous le rappelle. 63, 71, 84, Émilie Coqui, il y a déjà eu trois rétrospectives importantes sur le cinéma japonais portées par la Cinémathèque. Celle-ci, c'est la quatrième pour vous ?
Oh,
Là, vous y allez un peu fort. En fait, depuis 63, depuis l'ouverture de la Cinémathèque à Chaillot, la Cinémathèque va recevoir des propositions chaque année de rétrospective du cinéma japonais. Donc on voit bien là que notre fondateur, Henri Langlois, ouvre une porte qui ne se referma jamais. Et chaque année, avec des espaces de 2 ou 4 ans, la Cinémathèque rend hommage à des sociétés de production, à des réalisateurs, à des programmations historiques, comme avait trait à faire Langlois et à faire cette fonction de défrichage. Ce que je voudrais commencer, c'est que par un fait que peu de monde a conscience ou a en tête, c'est que la rétrospective de 1963, une programmation historique un petit peu mal conçue, on voit que l'histoire n'a pas encore été même analysée et encore en cours, a été conçue par un comité franco-japonais. Donc Langlois s'est entouré de Japonais comme Madame Kawakita ou un autre monsieur très important qui s'appelait Shimizu, et que cette programmation, bon nombre de copies sont restées à la Cinémathèque, donc ont été tirées à cette occasion, bon nombre de copies sont restées pour enrichir les collections films de la Cinémathèque, mais aussi un bon nombre est reparti au Japon, ce qui a été la première pierre d'une Cinémathèque japonaise. Voilà.
Vous voulez confirmer, pardon,
oui, Futoshi Koga. Elle a tout à fait raison, c'est très important pour la Cinémathèque de Tokyo, qui s'appelle National Film Center, parce que c'est la première collection des films japonais. En fait, donc, quand André Malraux est venu au Japon en 1960, il a proposé donc, cet échange de festivals, cinéma français au Japon, cinéma
japonais en France.
Et le gouvernement a décidé d'acheter les films. Et donc, ils ont payé pour développer les films, soit 80, et ces 80 sont revenus au Japon et qui est devenu la première collection de National Film Center qui sera ouverte en 1970.
Voilà. Une longue histoire d'amitié entre la France et le Japon et de nombreux allers-retours, c'est ce que vous évoquez déjà, entre les œuvres d'un côté comme de l'autre. Les pièces présentées dans l'exposition sont toutes issues de la collection de la Cinémathèque, plus d'une centaine de documents donnés par des cinéastes japonais, français, réunis par le fondateur des lieux, Henri Langlois, que vous avez d'ores et déjà cité, Émilie Coqui, un collectionneur invétéré, un sacré spécimen, passionné de cinéma tout court, mais également de cinéma japonais. Quel lien avait-il tissé avec le Japon, Pascal Alex Vincent ?
Alors, concernant les liens entre le Japon et Henri Langlois, je vais plutôt passer la parole à Émilie, parce que tu représentes la Cinémathèque française et tu connais bien l'histoire, et notamment celle d'Henri Langlois.
Vous ne l'avez pas connu, vous, Henri Langlois, vous étiez trop jeune.
Je suis beaucoup trop jeune. Il est décédé en 77, voilà, donc j'étais à peine né.
Je n'étais pas né, mais j'avais un an.
Et vous, Futoshi Koga, vous l'avez connu ? Ou pas, Henri Langlois?
Non, plus.
Tout le monde est trop jeune ici. Oui. En fait.
C'est un bon test de savoir.
Émilie Coqui, alors, sur ce rapport passionné qu'avait Henri Langlois avec le Japon.
C'est surtout une intelligence et une stratégie de Langlois qui était toujours sur les bons coups, qui a su bénéficier de cet engouement diplomatique. C'est-à-dire que Malraux, dans les années 60, met en place... La Cinémathèque va toujours bénéficier finalement de un peu de ces stratégies diplomatiques. Quand on fait une rétrospective aujourd'hui japonaise, on prépare là l'année 2017 sera consacrée au Japon en France. On bénéficie de subventions qui permettent d'inviter des personnalités, de faire traduire les films, etc. Donc Langlois a compris qu'il avait fort à jouer et qu'en plus il avait cette qualité un peu de défricheur et de curieux, d'homme curieux. Et il a vraiment... puis c'était un sentimental, donc il s'est noué d'amitié avec deux personnes très très importantes dans cette histoire, c'est Akira Kurosawa et cette Madame Kawakita. Et Langlois va se laisser guider, va se laisser programmer, et Kawakita, qui est donc une ambassadrice, qui est de tous les festivals, qui assure la promotion du cinéma japonais, mais aussi la représentation du cinéma international au Japon, va dans un anglais très approximatif, les courriers en témoignent, et puis d'autres témoins comme Hiroko Govers, nous en reparlerons. Ils se retrouvaient autour d'une table, autour d'un bon petit plat ou d'un Paris-Brest, et voilà comment se fontaient les trucs. C'était d'une façon très naturelle, et en consultant les documents administratifs, on a l'impression comme ça d'une grande légèreté. C'est-à-dire que Madame Kawakita va voir Cocteau, Malraux, place un film de Kurosawa à Cannes, etc. Et surtout place chaque année une rétrospective importante à la Cinémathèque. Le jeune cinéma japonais, l'histoire à l'écran, le Japon d'hier et aujourd'hui, tout ça pour amorcer la grande magistrale rétrospective qui va vraiment la former le regard de nombreux critiques, journalistes, historiens du cinéma, la programmation des années 80.
Alors vous avez déjà cité les trois noms, effectivement, des trois personnalités qui vont marquer cette histoire d'amitié entre le cinéma français et le cinéma japonais. Dans ses affaires personnelles, parce qu'il était quand même, on le disait, un sacré collectionneur, mais pragmatique, mais néanmoins, il cachait...
Un voleur.
Il avait caché un masque mortuaire du cinéaste Kenji Mizoguchi, que vous exposez actuellement à la Cinémathèque. Mizoguchi, le réalisateur des Contes de la Lune, Vague après la pluie, dont on va pas tarder à écouter un extrait, mais juste sur l'histoire de ce masque, qui peut nous la raconter ?
Allez.
L'histoire
de ce masque. Non, mais il y a d'autres documents où on arrive quand même un petit peu à retracer. L'histoire du masque, elle est très mystérieuse. Peut-être que Pascal en sait un petit peu plus, mais Langlois avait fait de son musée un musée très solide, très, très consciencieux de l'histoire du cinéma, de l'histoire de l'image animée, de l'optique. Mais il avait aussi un peu à la Breton, ou à la Prévert, enfin, je sais pas, mais en tout cas conçu le musée comme un cabinet de curiosité. Il racontait souvent que Hitchcock, il avait tanné Hitchcock pour avoir un don, une pièce, etc., représentant son cinéma. Hitchcock l'avait un peu envoyé balader. Et un jour, lui avait envoyé une boîte. Il ouvre la boîte et c'est la tête de Madame Bates. Le masque de Mizoguchi, on n'a pas véritablement... moi, je n'ai pas connaissance de comment il est arrivé jusque dans les mains de Langlois. Mais certainement, par la proximité il était très proche de l'équipe de Mizoguchi. Je pense à Mizutani, qui était son décorateur et un fabuleux plasticien qui a donné des maquettes. Peut-être grâce à Kawakita, voilà. En tout cas, c'est une tractation un peu qui peut... Je pense qu'au musée de l'Homme, par exemple, on ne sait pas comment certaines pièces sont arrivées dans les collections. Le masque mortuaire était présenté comme ça, comme une pièce curieuse, comme un document un peu solide, mais on ne saurait pas dire d'où il est venu et qui nous l'a donné.
Et c'était un vrai système de troc qui avait été mis en place. On disait tendrement, gentiment, voleur, en parlant d'Henri Langlois tout à l'heure, mais il y avait quand même des échanges.
Ce masque existe aussi à la Cinémathèque de Tokyo.
Il y a un double. C'est une réplique, c'est un faux. Vous évoquez les maquettes et les esquisses de Mizutani, le décorateur de Mizoguchi. Il y a une histoire aussi derrière ces esquisses. Elles ont été échangées, je crois, par Henri Langlois, c'est ça, contre des frais d'hôtel à Cannes, Futoshi Koga, Emily Koki.
C'est plutôt elle.
Non,
ce que on dit, c'est que comme Mizutani voulait aller à Cannes, il avait une expo Mizoguchi à Cannes, 64 ou 5 ?
65.
Ouais. Voilà. Et donc, les cinémathèques françaises ont payé les frais de mission. Et en échange, ils ont donné des dessins. Voilà. Donc, voilà.
Je ne sais pas si ça se passerait encore comme ça
mais
aujourd'hui.
Il y avait toujours un échange. En général, un film, pas un film. Un film de Renoir, un film de Kurosawa. On s'échange souvent. Il y a beaucoup de correspondances là-dessus. Donc... pourquoi pas avec les frais de mission contre les dessins.
Finalement, c'est un peu comme l'échange aujourd'hui qui peut s'opérer encore dans cette espèce de circuit un peu souterrain des archives de films et des musées. C'est-à-dire qu'avec Madame Kawakita et cette organisation de diffusion internationale, on a vu par les courriers qu'effectivement, il y a des échanges. C'est-à-dire que Kawakita a conscience qu'il faut montrer des films de Gans, qu'il faut montrer des films de Renoir. Kurosawa dira qu'il a été marqué par la vision de films de Gans. Et ça, c'est vraiment intéressant dans les liens entre le Japon et la France. Pascal Alex Vincent, extrait donc du conte ou des contes de la lune vague après la pluie de Mizoguchi, un film qui est paru en 53, que vous avez programmé dans le cadre de cette exposition rétrospective, entre guillemets, sur le cinéma japonais, dans le cadre de l'écran japonais, ce sera le 12 octobre. Pourquoi ce film est-il important ? Il faut quand même dire qu'on parle du cinéma japonais des années 50-60, majoritairement à travers l'exposition et à travers votre programmation.
Alors, du bar historiquement, c'est un des premiers films au lendemain de la guerre que le public français a découvert, hein, même s'il est sorti bien plus tard, hein, que 53. Mais c'est surtout tout simplement un des plus grands films de l'histoire du cinéma mondial, un film un peu inépuisable, un film qu'on montre dans toutes les écoles de cinéma, et il me semblait absolument indispensable de le programmer à la Cinémathèque française. S'il faut voir un film japonais, c'est un de ceux qu'il faut absolument avoir vu dans sa vie.
Et pourquoi est-ce qu'on le montre et pourquoi est-ce qu'il faut le voir?
Parce que Mizoguchi est peut-être un des déjà des plus grands cinéastes de l'histoire du cinéma. C'est un grand formaliste. Il a fait bouger les choses. Sa vie et son métier se confondaient. Et c'est peut-être un film essentiel pour simplement comprendre ce qu'est le cinéma.
Deux japonaises, vous les avez citées, ont également créé des ponts entre le Japon et la France. Kashiko Kawakita et Hiroko Koverse, en nous faisant découvrir plusieurs générations de cinéastes japonais. Il y avait là encore un système d'échange que ces ambassadrices de l'ombre avaient mis en place. Pourquoi Futoshi Koga?
Oui, parce que Madame Kawakita était la principale partenaire de Langlois. Donc, quand Langlois voulait faire quelque chose avec le Japon, c'était toujours Madame Kawakita. Et Hiroko Koverse, et qui est arrivée en France en 1962, et qui a travaillé un petit peu en tant qu'étudiant pour la grande première rétrospective du cinéma japonais 63, et a commencé à travailler l'année après en tant qu'assistant de Madame Kawakita à Paris. Donc en fait, comme Paris était quand même très important pour faire circuler les films japonais en Europe, en toute Europe, les Japonais ont envoyé les films à Paris. Chez Madame, à la Cinémathèque française, c'est Madame Govers qui gérait les films, non seulement en France, mais au Japon. Donc après Cannes, c'était à Londres, etc., etc. Voilà.
Et on voit que ces échanges étaient consentis plus et plus encore des deux côtés. On le voit dans un petit film qui montre Kurosawa accrochant un kimono pour la rétrospective de 63. À l'époque, il faut dire que la Cinémathèque changeait juste de domicile pour s'installer au palais de Chaillot. Ces kimonos, c'est des pièces en plus assez rares, hein, Émilie Coquille.
Oui. Ces kimonos, il faut savoir, voilà, ce sont des costumes de. D'ailleurs, il y a un des costumes d'hommes, un des kimonos d'hommes des contes de la nuit vague après la pluie. C'est des pièces extrêmement rares qui ne sont pas conservées au Japon. On a reçu un message très, très émouvant et très amical de notre homologue à Tokyo qui nous est reconnaissant d'avoir conservé ces pièces, car elles ne sont pas conservées au Japon. Je pense que la Cinémathèque de Tokyo est née en 70. On repère bien là que le cinéma est encore considéré comme une industrie qu'il ne faut pas forcément protéger. Quand on contacte aujourd'hui des personnalités responsables de grandes firmes comme la Shochiku, la Nikatsu, on voit bien que cet aspect patrimonial n'est pas encore en place par rapport à la France.
Et nous qui vénérons en France tellement notre patrimoine, notamment cinématographique, Futoshi Koga, c'est vrai que c'est assez difficile d'imaginer qu'au Japon, on jette énormément de choses. Hein. Beaucoup de studios de cinéma, d'animation, jettent les dessins, les pellicules.
Voilà, il n'y a même pas 10% de films qui ont survécu après la première guerre, la deuxième guerre mondiale. Donc il ne reste que moins de 10% des films japonais. Donc beaucoup de Ozu, Mizoguchi sont perdus, muets. Les films muets sont perdus.
Mais même après guerre, il n'y a pas tellement cette tradition de conservation, hein, comme on peut avoir, nous, par exemple, avec le son ou l'image à Aida.
C'est un petit peu dire à l'esprit japonais qu'on jette tout à l'eau et on oublie.
Et ça fait le bonheur de collectionneurs japonais comme français, et on peut le voir dans cette exposition. Pascal et Alex Vincent.
En effet, et il est intéressant justement de se dire que lors de la rétrospective que j'ai programmée à la Cinémathèque française, on va pouvoir voir des films particulièrement rares. Et moi, je me souviens quand je travaillais dans la distribution du cinéma japonais en France, les grandes difficultés à retrouver le matériel, c'est-à-dire les négatifs, ce genre de choses, puisque en effet, la majorité de ce matériel était perdu et que les compagnies aujourd'hui, parfois, ignore même l'existence de ces films, ignore même les titres des films. Et donc, j'ai eu à cœur de programmer de vraies raretés.
Hein. Et quand vous dites rare, c'est au point que certaines copies de films japonais aujourd'hui ne se trouvent plus qu'en France, ou quand même vous avez fait beaucoup appel
J'ai absolument des exemples. Par exemple, il y a un film japonais de Kenji Mizoguchi, encore lui, qui s'appelle 5 femmes autour d'Utamaro. La seule copie en 35 mm est actuellement à la Cinémathèque française. Voilà. Donc, il y a comme ça un rapport rapport privilégié entre la France et le Japon. Et ce rapport fait que on trouve en France beaucoup de classiques japonais qu'on peut pas voir au Japon. Et ça, c'est assez merveilleux.
Émilie Coquille.
Oui, je voudrais dire que les collections films de la Cinémathèque, il y a plusieurs catégories. Il y a des dons très bonnes et du forme, des maisons de distribution qui ferment, qui confient leurs films en fin d'exploitation à la Cinémathèque. Il y a Hiroko Goverse qui confie aussi des copies 35 à son nom. Et il y a aussi ce qu'on appelle les copies de transit. C'est-à-dire que les copies de transit, c'est à l'époque, à la grande époque des festivals, dans les années 70-80, c'était des copies qui étaient donc tirées pour les festivals, pour une exploitation courte, d'un an, grand maximum. Le Japon, c'est un peu comme les États-Unis. Le film est exploité pendant une période limitée et doit être détruit après. Évidemment, à la Cinémathèque, on fait les poubelles et on trouve des trésors dans les poubelles et quelquefois, on récupère. Donc, la Cinémathèque a gardé ses copies de transit. Ce qui n'était pas sans difficulté pour assurer après la diffusion. C'est-à-dire qu'on pouvait les montrer dans nos salles, mais pas forcément les prêter ailleurs.
Alors, merci beaucoup aussi à des réalisateurs français qui s'étaient entichés du Japon au point de ramener quelques trésors, comme Alain René après le tournage d'Hiroshima Mon Amour. On le voit à travers cette affiche de Le satellite mystérieux de Kojishima de 56 qui est exposé dans l'exposition L'écran japonais, ou encore de Gérard Philippe qui a fait partie des donateurs. Le petit monde du cinéma et de la critique française avait-il une influence, Pascal Alex Vincent, sur la production japonaise? Être connu, voire reconnu dans l'Hexagone, est-ce que c'était valorisant pour les cinéastes japonais?
Totalement, mais d'autant qu'historiquement, il me semble, et vous me direz si je me trompe, être adoubé par la critique française, surtout dans les années 60, était une forme de reconnaissance. Et que le fait que des films comme Rashomon, Les Contes de la Vague après la pluie, ou d'autres encore, La Porte de l'Enfer, par exemple, première palme d'or de Cannes, le fait que ces films aient eu une reconnaissance en Occident par le biais de grands festivals européens, a été décisif, notamment dans le regard porté par les réalisateurs japonais et le public japonais, le regard porté sur ces œuvres-là. Le fait qu'elles aient été acclamées en France a permis à ces œuvres d'être encore plus estimées, j'imagine, au Japon.
France Culture avec Pascal Alex Vincent, avec Futoshi Koga et Émilie Coquille. On parle ce midi de L'écran japonais, l'exposition qui va s'ouvrir demain à la Cinémathèque française, mais également d'un gros livre dictionnaire avec des DVD qui sera édité et qui revient sur l'âge d'or du cinéma japonais.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
On parle d'une époque quand même assez particulière, Pascal Alex Vincent, Futoshi Koga, celle où la nouvelle vague japonaise répondait à sa manière à la nouvelle vague française. C'était deux courants contemporains, même s'il y avait des logiques très différentes. Je crois pas de grandes théories ni de revues pour formaliser toute cette critique émise par ces cinéastes japonais dans les années 50-60. Pascal Alex Vincent, je parle bien sûr sous votre gouverne, mais il y avait quand même une forte connotation sociale dans ces films, dans ces années-là, qui cassaient les conventions établies, qui étaient les étendards, les grands représentants de cette nouvelle vague japonaise.
Évidemment, il y a des cinéastes très très célèbres comme Nagisa Oshima, qui est encore à ce jour l'auteur du film japonais le plus vu en France, qui s'appelle L'Empire des Sens, voilà, qui a fait un gros succès au box-office. Et d'autres cinéastes comme Yoshida, mais je précise que c'était des cinéastes qui sont passés aussi par le commentaire du cinéma, hein, qui écrivaient aussi, exactement comme la nouvelle vague française. Ce sont des cinéastes qui, lorsqu'ils étaient étudiants, et encore après, quand ils œuvraient en tant que réalisateurs, continuaient de commenter, d'écrire aussi sur le cinéma. Il y avait quand même un commentaire, une vision très forte sur leur travail, sur le cinéma studio qui se faisait avant eux. Et il y avait une forme, oui, d'une certaine façon, une forme de militantisme dans ce cinéma-là.
Alors, puisque vous citez Oshima, on va écouter un extrait de Nuit et brouillard, un film historique de 1960 qui évoque une page assez sombre du Japon.
Kiga. Kiga wa. Minna kiite.
で仲間の一人はスパイを逃がした疑いで自殺に追いやられた。
まあ死んだ高尾君のことはともかくとして、今夜はともかく野沢君と玲子さんの結婚を祝おうじゃないか。
待って先生、私結婚しても何らかの形によって運動を続けていこうと思ってては、でも今となったらどうしていいか分かんない。
玲子さん、 それからみんなも聞いてくれ。俺はね、今まで一度だって反動の側に組みしたことはないよ。
私だってそうよ。
俺もそうだ。
僕だってそうだ。
Futoshi Koga.
Oui.
Alors ça, ce film, il n'est pas programmé pour cette fois, mais c'est un chef-d'œuvre aussi,
oui.
qui représente et qui parle bien de son époque. Hein.
Oui, très très surtout l'ambiance des années 50 des étudiants, voilà, anti-parti communiste.
Il y a, Émilie Coqui, de nombreuses affiches de films qui sont présentées dans cette exposition. Et il faut absolument en dire un mot. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles répondent toutes à une grammaire très particulière. On peut voir notamment l'affiche du journal d'un voleur de Shinjuku, un film d'Oshima, là encore, réalisé par le graphiste Tadanori Yoko. Ces affiches, elles étaient quelque part des véritables tracts, non ?
Oui, Tadanori Yoko, qui a été exposé en 2006 à la Fondation Cartier, est considéré comme le Andy Warhol japonais. Il a une technique très particulière de collage, d'assemblage, et quand on regarde l'affiche du voleur de Shinjuku, on voit effectivement qu'il errait dans ces milieux un peu militants de ciné-club, et il y a un vrai décryptage à faire, c'est-à-dire qu'il y a une association de plusieurs techniques. On voit qu'il a découpé des estampes de la période Edo, qu'il a rajouté des cages de censure, qu'il joue avec des photographies, et qu'il fait voilà, un ensemble avec une image centrale de seppuku, voilà, d'ouverture de ventre un petit peu frontal. On voit voilà, une utilisation de la couleur, du fluorescent, qui est tout à fait remarquable. On a une lithographie qui est effectivement rarissime. Et il faisait partie d'un studio qui s'appelait l'ATG, où Madame Kawakita était partie prenante. Elle était productrice. L'ATG avait fonction de diffuser toujours du cinéma international, mais aussi de produire des œuvres indépendantes. En fait, l'ATG est née au moment où Oshima s'est fait virer des studios.
Futoshi Koga,
oui.
Est-ce que on sait qu'il y a eu un Lion d'or pour Kurosawa en 51, une Palme d'or pour Kinogasa en 53 et une pour Imamura en 83. Est-ce que ces trois récompenses ont pour vous vraiment sorti le cinéma japonais de son insularité ?
C'est-à-dire que la plus importante, c'est quand même le Rashomon 51 à Venise, Lion d'or.
Pourquoi ? Ça a été un choc, on a vraiment découvert le cinéma
en fait,
japonais.
Même avant la guerre, il y avait une dizaine de films japonais montrés en France, mais dans des ciné-clubs, comme au théâtre Vieux Colombier, le studio des Jules Souline, des choses comme ça. Et notamment le Carrefour, 1929. Mais après ce prix à Venise, le cinéma japonais, dans tous les festivals, il y a au moins trois films japonais. Donc, l'âge d'or existait, mais l'âge d'or à l'étranger a commencé avec Rashomon.
Et cet âge d'or, justement, il est complètement révolu aujourd'hui, Pascal Alex Vincent, cet âge d'or que vous décrivez dans ce dictionnaire où vous présentez plus d'une centaine de cinéastes, ou est-ce qu'il se perpétue ? Il y a quand même un héritage qui a été transmis.
Si on envisage cet âge d'or comme un âge d'or économique, c'est-à-dire beaucoup de films produits, dans les années 50, il se produisent entre 400 et 500 films par an, donc cet âge d'or, il est indiscutable, c'en est un. C'est-à-dire que les gens vont beaucoup au cinéma, on produit beaucoup de films. Il se trouve qu'aujourd'hui, au Japon, en 2016, et Futoshi Koga nous le disait tout à l'heure, il se produit encore 500 films par an, c'est ça, au Japon
Un peu plus,
entre 500 et 600 films par an.
Même 700.
700. Donc voilà, l'âge d'or évoqué dans le dictionnaire qui sort en octobre concerne les années 30 jusqu'aux années 70, qui était l'âge d'or plutôt des studios, à l'époque où le cinéma se faisait en studio, exactement comme sur le modèle hollywoodien, des studios qui avaient sous contrat des stars, des réalisateurs, des techniciens. Et donc oui, un âge d'or parce qu'il se produit beaucoup de films et que le public répond présent en masse au Japon.
Et puis le maître de cet âge d'or, en tout cas le plus connu ici en France et à l'international, c'est bien sûr Kurosawa, qui dessinait, et pour preuve, ces esquisses des 7 samouraïs qui sont exposés à partir de demain à la Cinémathèque. Vous reconnaissez la musique ? Notez qu'un nouveau remake des 7 mercenaires avec Denzel Washington sortira en salle le 23 septembre, lui-même adapté des 7 samouraïs de Kurosawa. Merci beaucoup à tous les trois d'être passés par nos studios.
Merci.
L'exposition commence donc demain à la Cinémathèque à Paris. Elle s'intitule L'écran japonais. Et votre ouvrage, votre dictionnaire, votre somme sur l'âge d'or du cinéma japonais, Pascal Alex Vincent, que vous avez dirigé, se trouvera en librairie à partir de début octobre.
Début octobre, c'est ça. Paru. Absolument,
bon, on devrait quand même octobre. Pouvoir le trouver du côté de l'exposition, j'espère aussi.
Oui, quand même.
À noter juste aussi que la Maison de la Culture du Japon présentera une rétrospective de Kenji Mizoguchi à partir, ça a commencé, du 10 septembre jusqu'au 24. Voilà, autre rendez-vous avec le cinéma japonais. Un grand merci.